L'association du Lions Club Compiègne Royal Lieu a installé son salon du terroir à Marny-les-Compiègne dans la salle Marcel Guérin. Un moment simple, convivial, pour aller à la rencontre des artisans des Hauts-de-France et découvrir les saveurs qui font l'identité de notre région. Parmi eux, j'ai rencontré Éric Bernard, un artisan qui n'a pas peur d'innover. Il a mis au point un champagne à la rhubarbe, un pétillant léger, étonnant, qui bouscule un peu nos habitudes.
Mon activité actuelle, la principale, c'est d'abord que je suis retraité. J'ai pris ma retraite assez tôt et du coup j'ai décidé de recréer autre chose. Donc l'idée a été de travailler la rhubarbe, qui est comme je jardine un peu, qui est franchement une plante de chez nous. Et puis c'était un peu lui donner ses notes de noblesse en le traitant à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de dire méthode champenoise, on dit méthode traditionnelle. Voilà. Donc double fermentation avec prise de mousse en bouteille. Et là, je le décline donc en trois formes, parce qu'il y a 80 variétés de rhubarbe, deux grandes familles, les rouges et les vertes. J'ai un millésime qui est à base de rhubarbe rouge, que je travaille tous les ans, qui est décliné en brut et en demi-sec. J'ai traité aussi de la rhubarbe verte, donc une cuvée qui s'appelle Vertige de 2022, voilà, qui est un tout petit peu moins aromatique, plus subtile en aromatique. L'aromatique met un peu de temps à arriver en bouche. Et la particularité du produit, c'est son taux d'alcool qui est faible. Le rhubarbe n'a pas de capacité à faire de l'alcool, donc je rajoute du sucre, de betterave parce que c'est picard, et donc je mets les quantités de sucre de façon à arriver à un produit fini à 7,5 de taux d'alcool.
Aujourd'hui, on est au salon du terroir de Marny-les-Compiègne. Vous venez vous-même de Marny-les-Compiègne. C'est important pour vous, du coup, de travailler avec des produits vraiment locaux.
Quand on regarde la carte de France des vins, il y a un trou en Haute-France. Okay. Et je me disais que ça serait peut-être bien qu'on... Alors, on n'a pas le droit de dire que c'est un vin, parce qu'il n'y a pas de raisin, mais d'apporter un apéritif reconnu en Haute-France avec une plante des Hauts-de-France. Voilà. La subtilité aussi, c'est la bouteille. C'est modèle Pompadour de la verrerie Saverglas à Feuquières dans l'Oise.
Donc on travaille également ici.
Voilà. Et c'est une bouteille qui m'a tout de suite tapé à l'œil. Et du coup, ça fait un beau contenant.
Vous êtes beaucoup en France à travailler la rhubarbe sous cette forme ?
J'en dénombre, on doit être trois producteurs, dont un principal dans l'Est. C'est un produit qui existe quasi pas sur le marché national.
Vous avez des retours justement un peu de vos clients qui testent, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
C'est souvent une belle surprise, à tel point que régulièrement on commence à faire des fins de mariage avec. Comme le taux d'alcool est plus faible qu'un champagne, et puis qu'il y a cette espèce d'aromatique de rhubarbe qui est intéressant, c'est facilement associable à des desserts à base de chocolat ou surtout à base de fruits rouges. Ça marche très bien avec les fruits rouges. Donc en fin de repas, c'est plus léger à boire.
Principalement du coup avec les desserts, ça s'accorde bien. Avec les plats, est-ce que vous avez quelque chose à conseiller ?
Alors avec les plats, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, avec un foie gras, le demi-sec, la cuvée Tiffaine en demi-sec va aller très bien avec un foie gras. Sinon, ça sert plutôt à l'apéritif, exactement comme un champagne, les mêmes assortiments, sucré, salé. Par contre, avec un plat, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être avec un sanglier groseille, parce qu'il y a cette association fruits rouges, fruits rouges rhubarbe qui est intéressante.
Et vous travaillez du coup un peu avec des restaurants locaux également ?
Oui, tout à fait. Il y a le village à Choisy-au-Bac. Et puis les quatre frères à Armancourt. Et j'ai un premier ouvrier de France pâtissier dans un hôtel 5 étoiles qui le sert au dessert, associé à un fromage blanc au thym.
Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Plus loin, j'ai croisé un couple passionné de safran, un produit délicat qu'ils cultivent et transforment ensemble. Une épice parfois oubliée qu'ils font revivre en imaginant sous différentes formes, avec une vraie volonté de partager leur savoir-faire.
Donc nous, on est producteurs près de Compiègne de safran depuis 10 ans. Donc on propose bien sûr du safran et puis des produits transformés au safran. C'est-à-dire qu'on produit aussi des fruits pour la transformation, donc on fait des confitures avec. Et on achète aussi des produits à des producteurs comme du miel, de la moutarde de Ribécourt, différents produits en fait, qu'on aromatise en fait, du safran.
Comment est-ce qu'on le travaille ? C'est quoi un peu les étapes de fabrication, entre guillemets ?
Donc le safran, c'est une épice qui est déshydratée, on est à 4% d'eau. Donc malgré ce qu'on peut voir des fois à la télé, en fait, c'est une épice qu'il faut réhydrater à l'avance. Donc si vous voulez, je vais vous donner une petite recette toute simple, notamment pour faire du risotto, qui est l'un des plats emblématiques du safran. Donc il faut prendre en fait 10 filaments pour 250 g de riz, le mettre donc dans le bouillon, idéalement la veille, au réfrigérateur. Et ensuite, quand on cuit son risotto, on est obligé de rajouter du bouillon pour finir la cuisson. C'est là qu'on rajoute le bouillon safrané pour finir la cuisson et avoir un risotto très goûteux.
Ça donne quoi un peu comme goût justement cette épice ?
L'intérêt principal du safran, c'est d'être un exhausteur de goût. C'est pour ça que les plats emblématiques, c'est risotto, paella, bouillabaisse, que c'est un énorme exhausteur de goût, notamment sur poisson crustacé. Donc en fait, on l'utilise énormément, nous, pour même dans nos préparations, doser pour amplifier les arômes sans rapporter un arôme supplémentaire. Et après, quand on aime vraiment, on est sûr que les gens aiment bien le safran au niveau de ses convives, on peut en mettre un peu plus. Et après, l'aromatique est très particulière, difficile à décrire. Il y en a qui parlent de cuivre, c'est très spécifique.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-dedans ?
Donc c'est ma femme, moi je suis conjoint collaborateur, c'est ma femme qui voulait s'installer, elle aime bien tout ce qui est cuisine, transformation, et puis on a recherché, dans l'Oise on a vu qu'il n'y avait pas de producteur de safran, elle s'est dit, on tente, donc on n'a pas fait d'études de marché, on a lancé la production, puis après on a développé d'autres productions pour associer avec le safran. Alors déjà, on est obligé de beaucoup communiquer parce qu'en fait, c'est une épice qui était... Moi, je fais déjà beaucoup de médiéval parce qu'à l'époque médiévale, on fait de la reconstitution de plats en 6 plats, 7 plats sur 10. En fait, on a du safran et d'autres épices dedans. Et donc, c'est une épice qui a été un peu oubliée. Donc déjà, il faut la remettre au goût du jour, expliquer aux personnes comment l'utiliser. Enlever les freins qui font qu'on ne va pas l'utiliser parce que c'est vraiment une épice qui apporte énormément, des Saint-Jacques, on ne peut plus faire de Saint-Jacques maintenant sans safran, ça amplifie tellement les arômes, ça les prolonge en bouche sur un mets aussi fin, c'est vraiment très 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 intéressant.
Christophe Godet, président du Lions Club Compiègne Royallieu, rappelle que ce salon n'est pas seulement une vitrine, entre guillemets, pour nos artisans, mais aussi une action caritative derrière.
Notre vocation, c'est la devise des Lions, we serve. Nous mettons au service de nos compatriotes sous toutes les formes possibles, aussi bien en service direct, en aidant des étudiants, des jeunes en difficulté, et en faisant des collectes de fonds pour financer la recherche contre le cancer infantile notamment, parmi toutes les causes que nous soutenons.
On a une cause solidaire également derrière l'événement, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr, nous soutenons sur cet événement l'association Enfants Cancer Santé. Donc, c'est une association nationale qui est filleule du Lions Club France, qui encadre et qui finance la recherche sur les cancers infantiles. L'intérêt de travailler avec Enfants Cancer et Santé, c'est que c'est une association qui est parfaitement contrôlée, où on sait que chaque euro qui va être collecté, donc donné par tous les visiteurs, chaque euro collecté va à l'association, chaque euro repartira intégralement dans la recherche sur le cancer et sur des programmes bien sélectionnés. On est du 100% don à la recherche. C'est une cause qui nous tient à cœur dans le Lions international. Le Enfants Cancer Santé, ça fait 27 ans que ça existe. C'est 1,5 million d'euros de financés. Donc c'est quelque chose de très important.
Quelle a été l'idée, le processus de création de ce salon ?
Eh bien, nous avons été sollicités par la mairie de Marny-les-Compiègne qui souhaitait créer un événement de ce type-là, sachant qu'on avait, nous, un vrai savoir-faire pour créer des grands salons comme celui de la broderie que nous organisons en parallèle à Compiègne, et voilà, pour démarcher donc différents artisans, avec l'éthique que le Lion s'apporte, c'est-à-dire rechercher de l'artisanat local, passionné, des gens authentiques et qui sont sensibles aux œuvres que nous soutenons.
Aujourd'hui, on peut retrouver combien de stands et dans quel domaine environ ?
Alors, il y a une quinzaine de stands et qui vont du chocolat, des produits de saison, des pétillants pour les fêtes, des bijoux artisanaux, des objets de décoration, et puis du miel également. Donc, beaucoup de produits très locaux. Et l'exception est faite simplement pour les produits festifs comme le vin, ou en Picardie c'est un petit peu plus compliqué, donc là on a un très beau revendeur producteur de vin qui nous vient du Bordelais, qui propose des produits très qualitatifs.
On a des produits qui sont assez originaux. Qu'est-ce qui vous a guidé justement dans vos choix par rapport à la sélection des exposants?
Ce qui nous a guidé vraiment, c'est le fil conducteur, c'est la proximité et l'échange qu'on a avec les producteurs et qu'ils soient vraiment passionnés par ce qu'ils font, qu'ils en parlent avec authenticité et en fait qu'ils oublient même le commerce et qu'ils parlent vraiment du fil créateur de leurs produits. Là, on sent qu'on a quelqu'un en face de nous qui vit son produit et qui est, c'est pas purement mercantile, il a quelque chose à transmettre. Voilà, c'est ce qui nous guide principalement et c'est ce qui nous marque aujourd'hui. Et voilà, même le stand que j'ai devant moi, rue Barbissimo, voilà, je ne peux pas faire plus local puisque là c'est un Marniotin. Voilà, donc c'est vraiment ce fil conducteur.
Lors de la première édition, c'est près de 2700 euros qui ont été collectés afin d'en faire des dons. Un salon qui met en avant nos artisans, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.